Silcast présente la revue de presse. Thème du jour, géopolitique. Avec Kenji et Alex, bonne écoute.
Je vais essayer de ne pas confondre Bab el-Mandeb et Hormuz. C'est déjà ça. Bon, on en est au 12e soir consécutif de frappe américaine sur l'Iran, et la situation glisse encore d'un cran.
Marc devait couvrir la géopo aujourd'hui, mais il a préféré nous laisser gérer Hormuz tout seul. Kenji, promis, on te fera pas dessiner des cartes du Détroit en direct.
Vali Nasr, cité dans le même article, résume bien la posture de Trump au départ. Dans sa tête, c'était une transformation qui allait construire son héritage, rapide et sans coup. Le modèle mental, c'était le Venezuela. Sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela.
12e nuit, et surtout un changement d'objectif que je trouve fascinant, façon aveu à peine déguisé. Le Guardian le dit clairement dans son papier de mercredi. Operation Epic Fury a commencé avec un objectif de régime change, et maintenant l'objectif c'est de rouvrir le détroit. Autrement dit, réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés.
Ce qui m'intéresse dans le suivi RFI d'aujourd'hui, c'est que les gardiens de la Révolution disent avoir stoppé trois pétroliers qui tentaient de franchir Hormuz. Ce n'est plus une menace théorique sur le détroit, c'est une interdiction opérationnelle exercée en direct.
Et le coût, parlons-en. Excès au Sénat, toujours selon le Guardian, 37,5 milliards de dollars à ce stade, plus trois soldats américains tués la semaine dernière. Et je te passe les sénateurs furieux. Secretary of War, le mec s'auto-proclame ça, mais quand on lui demande la facture, il fait moins le malin.
Le Brent est repassé au-dessus de 95 dollars, plus 3% mercredi, et l'analyste de Commonwealth Bank cité par le Guardian pointe le vrai problème. Les stocks sont bas. Ce n'est pas le même choc qu'il y a 5 mois, parce que les inventaires se vident.
Et côté mer Rouge, ça se double d'un second front. Le Guardian en live rapporte que les Houthis ont frappé 2 tankers saoudiens hier, dont l'Engselia incendié. Et 2 supertankers chinois transportant du brut saoudien s'apprêtent à tester le blocus en sortie de mer Rouge. On va voir en temps réel jusqu'où va la ligne rouge.
Parce qu'une coalition ouverte, c'est la garantie que leurs infrastructures pétrolières et leurs usines de dessalement, celles que le Guardian mentionne comme cible délibérée, deviennent officiellement des objectifs de guerre iraniens. Ils préfèrent absorber des coûts asymétriques que verrouiller l'escalade. C'est cynique, mais c'est rationnel.
Alors, permets-moi une question un peu naïve, Kenji. À quel moment les monarchies du Golfe basculent? Parce que là, Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite se font tirer dessus. Et pourtant, sur RFI, Madi Gouloum d'ORF Middle East dit que le seuil pour former une coalition contre l'Iran n'est pas atteint. Ils encaissent des drones sur des usines de dessalement et ils continuent à prôner la désescalade.
Avec la question de l'enrichissement domestique, qui est la ligne rouge de la non-prolifération. Si les Saoudiens obtiennent ce droit, tu enclenches mécaniquement une course régionale. Turquie, Émirats, Égypte derrière. Tu punis l'Iran pour ce que tu autorises à son rival.
Rationnel pour les dirigeants. Les populations locales qui dépendent de ces désalplans pour boire, elles apprécieront moyennement le calcul. Et il y a un autre truc qui sort dans le live du Guardian, l'accord nucléaire civil US-Arabie Saoudite. En pleine guerre avec l'Iran sur son programme nucléaire, Washington signe pour équiper Riyad d'un programme nucléaire. La cohérence est saisissante.
Ce qui rend la menace politiquement bizarre. Tu annonces publiquement une cible que tu n'as, techniquement, pas les moyens de détruire. Ali Vaez, de l'International Crisis Group, cité par 20 minutes, suggère que les fuites servent à saborder toute piste diplomatique. C'est de la mise en scène d'escalade.
Et l'autre point d'escalade sur la table, c'est le mont Kolang. 20 minutes en fait un topo aujourd'hui. Trump menace de frapper bientôt cette montagne au centre de l'Iran, où un complexe serait enfoui à plus de 100 mètres. L'ISIS dit que ce n'est pas encore opérationnel. Et surtout, James Acton de la Carnegie estime que même les GBU-57, les bombes anti-bunker, ne perceraient pas.
C'est un texte à lire en entier. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par-dessus. Juste noter que dans le vacarme Iran-USA Hormuz pétrole à 95 dollars, Gaza continue, et la mort par attente administrative reste une méthode.
Legacy building par communiqué, quoi. Tu changes de sujet quand même, parce qu'il y a un article que je ne veux pas laisser passer. Politis publie le témoignage d'Ayman Mgames, rappeur palestinien d'Angers, dont le frère Ahmed est mort à Gaza le 29 juin, faute de soins, 37 ans. Attente d'autorisation médicale, rapport envoyé, scanner, analyse, rien n'arrive à temps.
Pour changer de théâtre, il y a aussi un chiffre du grand continent qui m'a scotché ce matin. Ratcliffe, directeur de la CIA, confirme que l'espérance de vie d'une recrue russe arrivant sur le front ukrainien est estimée entre 20 et 30 minutes.
Les gens pensent que les patients meurent à cause de la maladie. Parfois, ils meurent parce qu'ils sont contraints d'attendre. Cette phrase devrait être placardée dans chaque chancellerie qui parle de couloir humanitaire depuis 2 ans.
Le côté design de la chose, c'est que les Russes n'arrivent pas à former les opérateurs eux-mêmes. 8 000 formés au premier semestre, contre 34 400 prévus, 4 fois moins. Ils perdent la course à la boucle drone opérateur qu'ils ont pourtant contribué à normaliser.
20 minutes, le temps d'un épisode de sitcom. Et Radcliffe attribue directement ça à l'amélioration des drones, dopés à l'IA, devenus des machines à tuer spécialisées et peu coûteuses. C'est la première guerre où on peut littéralement mesurer l'impact du machine learning en minutes de survie humaine.
Pertes russes 8 fois supérieures aux pertes ukrainiennes au premier semestre, contre 2 à 3 fois en moyenne depuis 2022. Le rapport de force sur le terrain est en train de basculer, quoi qu'en dise la carte des lignes de front qui bouge peu.
Et Janice Klug, l'économiste citée par Le Grand Continent, parle de 71 200 recrues au premier trimestre, le plus bas depuis 3 ans. D'où les rumeurs de nouvelles mobilisations après les législatives de septembre, une seule vague depuis 2022, et Poutine sait ce que la deuxième lui coûtera politiquement.
Un dernier papier avant de conclure, parce qu'il fait le pont entre les sujets, Le Monde diplomatique sur les mobilisations transfrontalières USA-Mexique contre le lobby des armes. Guadalupe Aguilar, mère d'un disparu du Jalisco, invitée à la veillée nationale de la Newtown Action Alliance à Washington. 44 447 morts par arme à feu aux États-Unis en 2024, selon le CDC. 130 000 disparus au Mexique depuis 1962.
Et pendant ce temps, Zelensky vire son commandant en chef Sirski et propose un poste prestigieux au ministre de la Défense qu'il avait limogé la semaine dernière, ce qui avait déclenché des manifestations. Le Guardian le glisse dans les headlines. La politique intérieure ukrainienne devient chaotique au moment précis où le terrain leur sourit. Timing douteux.
Ça rappelle que, entre le bruit d'Hormuz et les drones ukrainiens, il y a des guerres domestiques qui tuent en volume comparable et sans communiquer du Pentagone.
Ce que je trouve fort dans l'angle du diplo, c'est que le trafic d'armes US vers les cartels est le point de jonction entre 2 tragédies nationales que Washington traite comme séparées. Les mêmes armureries alimentent Sandy Hook et Guadalajara. Global Exchange documente ça depuis 10 ans. Et pour la première fois, des Mexicaines montent sur scène avec les familles américaines. C'est modeste, mais c'est un déplacement politique intéressant.
À demain.
Sur ça, on s'arrête. 12e nuit de frappe, Hormuz verrouillé, mer rouge sous embargo outils et Koh Lang comme prochaine ligne de faille. On reprend demain.